Matthias, die Aida, großer Mann, Partia, dem Gade, Jos, weiß Loseria, die Göse, Spurs, von Munden, Ria, Talia, Barbia, von Ga, weiß Nonderia, Servia, Moria, Dona, was fehlt der Ria. Von der Pedura, die Meeren, du da, Dona, Sera, sonst leia, Dura, geht Brutz, nie, du da, More,
Odissias a toutes. Ce mois-ci, dans mes lettres d'Occitanie, c'est Joé Bousquet que je vous propose de découvrir ou redécouvrir. Il reste l'un des plus grands noms de la littérature française du XXe siècle, même si son œuvre n'est aujourd'hui connue que de quelques initiés. Jeune dandy aventureux, séducteur et rebelle, il vit son existence basculer en 1918, lorsque sur le champ de bataille, une balle le prive de l'usage de ses jambes. C'est dans une chambre au volet clos à Carcassonne qu'il vivra allongé et où il n'aura de cesse d'écrire. On peut aujourd'hui visiter cette chambre au 53 rue de Verdun, acquise par le conseil départemental de l'Aude. La maison des mémoires abrite une exposition permanente, ainsi que le centre Joé Bousquet et son temps. Ce dernier organise des manifestations autour de l'œuvre du poète. Elle est labellisée depuis 2011 Maison des Illustres par le ministère de la Culture. Je ne peux que vous conseiller sa visite. Mais revenons au début. Joseph Jean Théophile Bousquet, qui se fera plus tard nommer Joé Bousquet, est né dans une famille aisée à Narbonne le 17 mars 1897. Son père était médecin et destinait son fils à une carrière dans la banque. La vie débutait fort mal, elle faillit d'ailleurs s'interrompre dès la naissance, et il fallut 2 heures pour le ranimer. Il vécut grâce à l'obstination d'une jeune sage-femme. Ainsi, dès l'origine, survient la menace, cette manière aussi de se tenir à la frontière entre la vie et la mort, qui sera une constance de son existence. Sa première nuit fut ainsi décisive. Un peu plus tard, une femme de chambre découvre l'enfant en train de jouer dans les bras de sa nourrice qui vient de mourir brusquement. Pour la seconde fois, on l'arrache des bras de la mort. La nourrice était originaire de Montségur. À l'âge de 3 ans, une fièvre typhoïde le tient plusieurs semaines entre la vie et la mort. On le croit perdu. C'est son oncle médecin qui le sauve. L'enfant le supplie. « Laisse-moi mourir, il ne faut pas que je vive. » La guérison de l'enfant est à cette époque miraculeuse. Plus tard, le poète, attentif aux signes, entretient le sentiment qu'une malédiction pèse sur sa vie et sur celle de ceux qui le côtoient. Il a conscience de traîner derrière lui un sillage mortel, et ceci sera le ferment d'un imaginaire hérité d'un magma de superstition et de magie. La mère a fait vœu à la Vierge Noire. Si elle accorde vie à l'enfant, elle lui fera don de ses diamants. Mais après la séparation des biens de l'Église et de l'État, elle rachètera les diamants sur les conseils du curé. Acte impie qui, pour le poète, sera la source de tous les malheurs. Et cette Vierge Noire revient à maintes reprises dans ses textes, prenant chaque fois une signification nouvelle. Pourtant, la vie était heureuse dans la famille Bousquet. Le grand-père paternel, viticulteur à La Palme, dans l'Aude, était un homme jovial, cultivé et doté d'esprit de finesse. Le petit-fils aime se promener avec lui et partager son insouciance, son bonheur de vivre et son amour des arts. Au moment de la naissance de Joé, le père Joseph, médecin militaire, est attaché à la garnison de Narbonne. Dès l'année 1900, il quitte l'armée et ouvre un cabinet à Carcassonne. C'est là que va se dérouler l'enfance de Joé. Il dévore la vie au sens propre. Il est violent et vigoureux et aime les petites filles au point de les mordre à pleines dents. On l'appelait ainsi l'homme-chien. Ainsi, au commencement de cette vie, deux pôles s'opposent violemment en lui. Celui très noir de la mort et celui lumineux de l'enfance heureuse, de la vie débordante, sur laquelle rayonne la lumière de la Palme et de Marseillan. Sa violence, l'intensité de son caractère s'affirment très tôt. Seul son père tente de l'adopter. La mère a pour son fils toutes les faiblesses possibles. Fugue, suicide traverse l'esprit du jeune garçon. Il doute de la paternité de son père qui ne cesse d'affirmer que son fils ne lui ressemble pas. Prémonition, hallucination, dédoublement. L'enfant est sujet à d'étranges phénomènes. Un jour, il voit même dans un rêve un poète malade, dans une pièce où il fait très noir. Des femmes l'entourent. Il étudie au lycée de Carcassonne, où une quinzaine d'années auparavant, un futur écrivain l'avait précédé. C'est Henri de Montfred. Il est né à La Franquie, tout près de la Palme. Ils se liront plus tard d'une profonde amitié. Joé Bousquet se révèle un brillant cancre qui réussit sans effort grâce à une prodigieuse mémoire. Dès l'âge de 14 ans, c'est un petit Don Juan de province, séducteur et vaniteux. Ses écarts de conduite et ses allures de dandy le font très mal voir dans la petite ville. Et dans cette ville qu'il a vue grandir, il se heurte à un conformisme provincial dont il aura à souffrir toute sa vie. Plus tard, il consacrera un ouvrage entier au Carcassonnais, le médisant par bonté. À l'époque de sa jeunesse, le voyou cache un esprit à maturité précoce, à la profonde détresse, un être inconsolable dont le désespoir lucide prend l'allure du défi. L'adolescent accomplit tous les gestes du suicide sauf le plus fatal. Il affirmera plus tard « Je voulais être une épave ». Il y a chez lui le refus d'accepter la vie telle qu'elle se présente. Il a maintenant 18 ans et derrière lui une vie tumultueuse. En août 1914, la guerre est déclarée. Il s'éprend d'une belle Carcassonnaise dont le mari est parti au front. Le scandale éclate. Défi ou provocation? Le père est mobilisé. Les Bousquets s'installent à Creil, dans l'appartement du boulevard Malesherbes à Paris où il est vissé. Joé commence à chausser, mais la comptabilité la nuit. Tous les soirs, il file à l'anglaise et passe la nuit dehors. Le père, à nouveau affecté à l'arrière, retourne dans son ancienne garnison de Narbonne et la famille se réinstalle dans le sud. Joé reprend ses études. Mais la nuit le terrasse à tel point qu'il décide de devancer l'appel. Il s'engage le 10 janvier 1916 dans l'infanterie et fait ses classes à Aurillac. Il parlera plus tard de cette ville dans son roman « Le rendez-vous d'un soir d'hiver ». Il a son baptême du feu le 16 avril 1917 et se conduit de façon si héroïque, si folle même qu'il est décoré de la médaille militaire. Dans sa témérité, il est blessé en Lorraine. Sa convalescence est celle d'un fêtard qui prend de la cocaïne en compagnie de prostituées. Obtenant une permission d'une semaine, il la passe à Béziers, où son père, médecin-chef, pourra continuer de le soigner. Il y avait déjà rencontré, lors d'une précédente permission, une jeune femme. Il retrouve Marthe lors de cette nouvelle permission, et cette fois-ci, ils deviennent amants. Cette liaison fulgurante et passionnée va en 3 jours sceller le destin de Joé Bousquet. Remonté au front, il poursuit sa conduite héroïque. En janvier 1918, il reçoit une lettre de Marthe qui lui annonce son intention de se suicider. Fou de douleur, il prend des risques insensés, ce qui ne lui vaut que pas la mort, mais une nouvelle décoration. Une nouvelle lettre s'excuse de la précédente. Il ne répond pas. Il a aimé Marthe passionnément, mais n'est plus prêt à s'engager avec elle. Cet amour le fera entrer pleinement dans sa destinée littéraire. Le 27 mai, une alerte est lancée, la bataille fait rage et Joé Bousquet, toujours téméraire, avance sous le feu de l'ennemi. Une balle l'atteint en pleine poitrine. Il comprend en un instant qu'il ne marchera plus jamais. Ainsi prend fin la jeunesse. C'est donc une deuxième vie qui commence après cette blessure. Joël Bousquet est paralysé des deux jambes et impuissant. Sur ordre officiel, il quitte l'hôpital de Riz-Orangis pour Toulouse. Le long voyage se solde par une double pleurésie qui le laisse presque mourant et par une confirmation de sa paralysie. La douleur s'accroît de l'incertitude. On le distrait, on lui parle de guérison. Mais il n'accepte pas le mensonge. En avril 1919, un an après sa blessure, il reçoit une carte postale de Marthe à l'hôpital de Carcassonne. Il va alors entamer une correspondance amoureuse entre eux qui va durer 6 ans. Il a 21 ans et nous voyons déjà naître le grand écrivain. Il a le pouvoir de dire ce qu'il ressent, aidé en cela par un génie de la langue. Et cet amour entre un homme allongé et une jeune femme ravissante est aussi réelle que tragique. À l'espoir de remarcher, Joël Bousquet va peu à peu substituer un présent de l'écriture. Son amour pour Marthe suit les courbes de cet espoir pour finalement épouser tout à fait le mouvement par l'écriture. Cet amour va s'éloigner et il eut fallu que Marthe fût une sainte. Joël se met alors à travailler beaucoup. Il apprend le grec, fait des recherches sur l'alchimie et les cours d'amour au Moyen-Âge. Dans les écrits des troubadours, il découvre des analogies avec sa propre situation. C'est chez eux qu'il va d'abord rencontrer une incompréhension de cet étrange amour passionné pour une âme lointaine. Il l'écrira 10 ans plus tard dans La fiancée du vent. Et puis la compagnie des livres et des philosophes détache de beaucoup de préoccupations secondaires. La littérature et l'écriture sont pour lui la conséquence logique de l'amour. Il se passionne pour les écrits des troubadours par nécessité vitale de transmuer une condition cruelle en une poétique. La poésie doucement s'impose. Sa rencontre avec François-Paul Alibert, ami de Gide, le met en contact avec Jean Ballard. Celui-ci a créé avec Marcel Pagnol la revue Fortunio, qui va devenir les Cahiers du Sud. Il va y collaborer à partir de 1928, de façon étroite jusqu'à sa mort. Il va se créer un réseau d'amis composé autour de Claude Estève, professeur de philosophie au lycée de Carcassonne, du jeune philosophe Ferdinand Alquier, de René Nelly, tous écrivains de la cité. Dans ces années-là, Bousquet n'a pas encore totalement renoncé à l'extérieur. Son ami Ducellier l'amène dans sa Bugatti jaune faire de grandes virées dans le pays Qatar, vers Montségur ou la Montagne Noire, mais aussi La Palme ou Saint-Féréol. Il écrit à Jean Cassou qu'il forme des amis depuis 10 ans dans la ville la plus bête du Sud. Il se méfie des Carcassonnais et déteste la ville. il n'est jamais bon de déployer son art dans le milieu où l'on est né. Avec Claude Estève, il va créer la rue Chantier. Celui-ci est le complice et l'intime. Il est aussi le compagnon dans la sphère des paradis artificiels. « Je suis un miraculé de l'amitié », écrit-il. Il donne à ce sujet des pages magnifiques dans « Traduit du silence ». Ses amis sont des frères d'armes, tant il a eu à lutter. Entre son corps et son âme existe un abîme infranchissable que toute son œuvre de poète va tenter de réduire. Mais le blessé allongé reste un être social et l'amitié se montrait seule capable de compenser les pires désarrois. Carlos Suárez en est un magnifique exemple. Il est poète et édite les Cahiers de l'Étoile. Une correspondance s'établit et va naître alors une des plus grandes amitiés de la vie de Joué Bousquet. Il va agir sur lui à la manière d'un conseiller, le poussant toujours plus loin dans son écriture. Ils écriront ensemble « Voix libre » et formulent les grandes lignes de recherche sur le langage. Par l'intermédiaire de l'écriture, l'âme sera maîtresse du corps. En 1932, Joué Bousquet va entamer un long débat épistolaire avec René Daumal, le fondateur du Grand Jeu. Cet échange sera publié sous forme d'un dialogue entre la métaphysique expérimentale de Daumal et la mystique charnelle de Bousquet. Suárez considérait la vie et l'œuvre de Joé comme un miracle de poésie pure qui ne s'apparente à rien d'établi. À son chevet, l'homme immobile reçoit le monde et donne la vie. Il ne s'est jamais plaint de sa condition. Cet état, si l'on y songe, permet de faire l'économie de la fuite. Son goût pour le réel l'a attaché à l'écriture, à la lecture et à l'amour bien particulier qu'il porte à ses proches et qu'il reçoit en retour. À l'intérieur de sa prison, il bâtit un espace illimité pour ses amis, actuels et futurs. Dans la neige de notre âge, il évoque la longue mélancolie de vivre nu-pied. Vivre nu-pied était un renoncement volontaire des pèlerins au Moyen-Âge. Il faudra beaucoup de courage pour accepter de pouvoir vivre sans marcher. Mais sa profonde sympathie pour Henri de Montfred, l'aventurier par excellence, lui permet de marcher à travers lui. La famille se transporte à Villadier, dans la campagne de Carcassonne, au bord de l'Orbiel. Dans le parc de l'ancien prieuré, un pavillon est réservé à Joé. Une toute jeune femme, vivant tout près, va se glisser chez lui. Il racontera cette histoire dans « Il ne fait pas assez noir » et ce sera l'histoire d'un amour très charnel et très pur. Chaque apparition d'Alice devient un enchantement et un retour de l'espérance. Alice veut l'épouser, il refuse. Elle s'éloigne profondément blessée. Mais il y avait en lui une méfiance à l'égard de l'amour, car il ne se pensait pas aimable. La jeune femme réapparaîtra dans Le Mal du soir, livre mélancolique, triste comme l'angoisse vespérale. Écrire et vivre vont désormais de pair, mais il ne sera jamais écrivain par métier ou pour faire de belles phrases. Il constate simplement que lorsqu'il est en train d'écrire, il n'y a plus de place, ni pour le blessé, ni pour l'infirme. Écrire est une démarche de l'esprit et non un statut social. Le langage est une forme de vie à lui seul, et c'est sa vie. Dans sa chambre, l'air est confiné, d'autant qu'il est opacifié par les fumées d'opium. Les murs sont couverts de tableaux, car Joé Bousquet a le goût de la peinture. Il va d'ailleurs constituer une collection de près de 150 toiles surréalistes. Et là, hors du temps, rayonne dans l'ombre une paix conquise sur la plus atroce des fêtes. Il sera à l'égal de Proust condamné à recevoir les personnes vers qui il ne peut aller. Et ainsi, Paul Valéry, André Gide, Aragon, Jean Paulhan, Paul Éluard, Joseph Delteil, Simone Veil et bien d'autres pousseront un jour la porte du 53 rue de Verdun. Il y aura aussi des peintres, Max Ernst, Hans Bellmer, Chagall, Delaunay, Magritte, Soutine et tant d'autres. Bousquet y régnera autant par la parole que par l'écrit. La chambre de Bousquet est sans doute un pays d'oc, le dernier écrin de l'amour courtois. un chant aventureux que le poète privilégie plus que tout, c'est celui de l'amour. Dans ces années-là, il rencontre Ginette, Ginette Augier, celle qui fut sans doute l'amour essentiel de sa vie. Elle est bien sûr la destinataire des lettres à Ginette, mais sera aussi une passante bleue et blonde, et elle est en filigrane dans toute l'œuvre à partir de 1927. Et c'est elle qui réclamera à l'heure de la mort. Elle est doublement sa vie, car elle lui prête son corps et lui permet de retrouver sa dignité perdue. Cette fusion est un mystère. L'amour opère aussi violemment que la blessure. L'une arrache l'intégrité du corps, l'autre la rend d'une autre manière. Tout est violence dans cette vie. Mais Ginette s'éloignera. Joé Bousquet devra consentir à une solitude qui sera aggravée par le décès de quelques amis, en particulier Claude Estève. Reste l'opium et la cocaïne. La souffrance est bien là et la tristesse par moments le submerge. Mais ce chagrin ne portera jamais sur sa condition, seulement sur sa manière de ressentir le réel. Il n'est pas apitoiement, mais conscience aiguë. C'est là chez lui un résidu du catharisme, une pureté qui tend au puritanisme. Le langage devient le terrain de la révolte et l'œuvre est une pure subversion poétique. Écrire non pour s'exprimer, mais pour intégrer son existence. La drogue a sans doute eu une incidence sur son œuvre littéraire. C'est certainement elle qui le met en contact avec cette nuit d'outre-noir. Il invente là un terme qui sera 30 ans plus tard mis à la mode par Pierre Soulages parlant de sa peinture. Simple coïncidence où le peintre, sans le citer, avait-il lu le poète, auquel cas il l'aurait emprunté. Mais ici n'est pas notre sujet. Cette nuit d'outre-noir est une véritable prison charnelle. Gaston Bachelard en parlera dans La terre et les rêveries du repos avec beaucoup de pertinence. C'est dans la tisane de Sarment que Bousquet décrira ce profond désarroi. En 1937, le poète fait la connaissance de Germaine. Une fois de plus, l'amour fait renaître l'espoir. Il écrira alors les lettres à Poisson d'or, surnom qu'il lui attribuera. En décembre 1938, il fait paraître 3 livres. Le mal d'enfance, Le passeur s'est endormi et Iris et petite fumée. Après ce travail de forcené, il se sent épuisé. Il est à Villalier en septembre 1939, au moment où se déclare la guerre. À cette annonce et celle du départ des amis, Joé Bousquet est saisi d'une telle angoisse qu'il manque de mourir des conséquences qu'elle a sur son corps. En 1940, son père décède. Il avait eu avec lui des rapports très conflictuels, mais ceux-ci, le temps passant, commençaient à s'apaiser. Heureusement, les amis fuyant la guerre et Paris se réfugient dans le sud et lui rendent plus souvent visite. Il y a toujours Éluard et Aragon, et puis Jean Paulhan, qui tient un rôle de plus en plus important dans l'édition des œuvres du poète. Il en est le véritable régulateur. La chambre devient non seulement un refuge, mais un lieu de résistance. Julien Benda, qui est juif et se cache, devient ici un familier du lieu. À la Libération, Joé Bousquet est nommé président des intellectuels de l'Aude. Il permet en 1946 une exposition de sa collection de peintures à Toulouse. Il dirige alors un numéro spécial des Cahiers du Sud sur les écrivains d'Oc. Les hommes d'Oc sont les héritiers d'une civilisation déchue et cette déchéance est au regard de l'imagination une aventure providentielle, écrira-t-il. C'est là toute la poétique des troubadours, une approche de la vie qui permet à la conscience de sortir du chaos engendré par la force. L'homme d'Oc, en réagissant à la force par une contemplation et une intériorisation de son malheur, en a fait la précieuse substance d'une poétique. Joé Bousquet ne se départira jamais de cette analogie entre son sort et celui des troubadours et des cathares. Et sur ce point, il retrouve Simone Veil. Il a fait sa connaissance et établit une correspondance avec elle. Elle va rendre visite au poète. L'un et l'autre, à leur manière différente, aiment le mal inscrit dans leur destin, établissant un modèle de stoïcisme même si Bousquet n'a jamais abandonné l'idée de la jouissance et du bonheur. Cette rencontre avec le philosophe a été décisive pour l'œuvre du poète. En 1943 commence la dernière partie de cette œuvre avec l'élaboration d'un langage sans métaphore. Il délaisse alors le foisonnement surréaliste pour s'orienter dans une recherche métaphysique. Les mots sont en eux-mêmes une voie mystique. Mais les crises d'urémie et les infections se succèdent dangereusement, le laissant chaque fois plus faible et plus épuisé. Ses écrits vont alors revenir sur l'enfance, avec les contes de Cycle de la Palme. Il va se consacrer à l'écriture d'un livre testamentaire, Les Capitales, où il souhaite formuler ses conclusions à propos du langage et du mystère de la création. Il a été contraint de vivre dans cet espace limité par sa blessure. Il fait du traumatisme et de la mort le point de départ pour remonter jusqu'aux sources de la vie et de l'être qu'il trouve dans le langage. Et il s'enfonce dans sa nuit à la rencontre des profondeurs généralement redoutées. Il ne craint pas la mort dont il pressent la venue. En août 1950, il va très mal. Il a interrompu l'opium, toujours désiré de mourir en pleine clarté. La mort arrivera le 27 septembre 1950. Il a travaillé toute sa vie à tenter de réunir le mystique et la poésie. Il fut peut-être le dernier des troubadours cathares. Si vous voulez, maintenant que j'arrive au terme de mon propos, élargir votre connaissance de Jouet Bousquet, je vous conseille la lecture de sa biographie par Édith de la Héronnière, biographie dont je me suis largement inspiré. Bonne lecture, Olmeskebe, et vous pouvez toujours me retrouver sur mon Instagram, Daniel Segalin.